Capital sur Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget
et Christina Fautard.
Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de partir avec vous aujourd'hui à la découverte de Lisbonne.
La capitale du Portugal au sud de l'Europe.
Alors, cette ville portuaire bruyante et en même temps cité européenne élégante a l'atmosphère unique.
Sans oublier sa beauté assez surprenante.
Ah oui, les sept collines se chevauchent, offrent de panoramas magnifiques et en outre, la ville a conservé ses sites historiques tandis que le Tage rappelle son glorieux passé maritime et les découvertes dont le Portugal peut s'enorgueillir.
Lisbonne est une ville peut-être un petit peu désuète, qui donne l'impression d'être figée dans un charmant passé, non ?
Oui, mais qui invite à la flânerie, à la promenade, à commencer par son centre, qui est un tout petit quartier du XVIIIe siècle, charmant, avec ses rues pavées, ses boutiques de ganterie, centenaires, puisque c'était quelque chose qui se faisait toujours, ses échoppes de Porto ou de la morue salée et ses tramways jaune, délicieusement désuet.
Voilà, une petite carte postale. Et tout ça donne envie de s'y promener et de connaître cette ville dont le passé remonte loin, jusque même l'âge de pierre, quand la péninsule ibérique était déjà habitée.
Alors, ce sont les Phéniciens qui ont fondé la ville environ 1200 ans avant Jésus-Christ, afin que leurs navires puissent se réapprovisionner. Les Grecs l'ont nommé Olysipo. C'est un nom dérivé d'Ulysse, que les Grecs considéraient comme le fondateur de cette ville.
Et plus tard, les Romains en seront les conquérants et Jules César la rebaptisera Felicitas Julia, Julie heureuse.
C'est ça.
Et puis les Visigoths et les peuples germaniques vont se la disputer pendant plusieurs siècles.
Et cela va durer jusqu'à l'arrivée des Maures au 7e siècle. Et en 756, Lisbonne sera englobée dans l'Espagne musulmane, dont la capitale était Cordoue. Les 9 siècles suivants, le royaume portugais donnera de grands rois, se libérera de l'occupation des Maures, le roi Henri le Navigateur enrichira le pays en finançant les découvertes, Vasco da Gama ouvrira la porte des Indes, le Portugal subira l'occupation espagnole, mais s'en libérera au bout de 70 ans environ.
Quel rapide panorama historique.
Oui, ben, on n'est pas là pour parler de l'histoire.
Et puis, le pays va se moderniser au XIXe siècle. Le Portugal, lié aux Britanniques, sera envahi ensuite par les Français pendant l'époque napoléonienne.
Et oui, voilà. Alors, voilà, je crois que cela suffira pour l'histoire de ce pays, de cette ville dont nous connaissons tous la période moderne avec Salazar, le dictateur, la révolution des œillets en 1974 et le Portugal deviendra membre de l'Union européenne. Alors nous voici dans Lisbonne du 21e siècle, dans cette ville qui baigne dans une lumière exceptionnelle, au gré des sept collines en montagne russe, sillonnée par les tramways brinque-ballants et couronnée par un vieux château mort.
Comme c'est beau. Et ça vraiment tout pour plaire. Alors par quoi allons-nous commencer cette visite? Peut-être par des endroits ou des monuments incontournables. Pour moi, le monastère Saint-Jérôme en est un bon exemple.
Alors tu as raison, ce monastère est un véritable joyau de l'art manuélin d'une finesse incroyable et il est classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Comme la cathédrale de Chartres.
Tout à fait, sauf que le monastère a quelques siècles en moins, il est plus jeune. C'est le roi Manuel Ier qui a commencé sa construction en 1501 et qui a duré un siècle complet pour célébrer les exploits de Vasco da Gama qui partit pour l'Afrique en 1497, est revenu chargé de poivre, de cannelle, après avoir découvert la route des Indes.
Et pourquoi ce nom de Saint-Jérôme pour ce monastère?
Alors parce que les moines de cet ordre avaient pour mission de prier pour les marins, puisque Saint-Jérôme était le patron des marins, et quand l'ordre a été dissous vers 1820, le monastère est devenu une école, un orphelinat par la suite, et tout ça jusqu'en 1940.
Saint-Jérôme ou Saint-Géronimo?
Géronimo,
voilà, le nom portugais.
Je crois qu'on va essayer de ne pas trop prononcer du portugais.
Donc, dans l'église du monastère, donc non loin de l'entrée et sur la gauche, se trouve le tombeau de Vasco da Gama, un grand explorateur, ainsi que celui d'un grand poète du XVIe siècle qui s'appelait, je crois, Fernando Pessoa.
C'est ça.
et de très grosses colonnes massives montent jusqu'au plafond. Et à propos du plafond, on devrait plutôt parler de dentelle de pierre, tellement c'est sculpté avec finesse.
Alors c'est le vrai style Manuel, hein, chargé et beau à la fois. Et ceci caractérise tout le monastère, le cloître, la salle capitulaire et le portail sud aussi, richement ouvragé, ainsi que l'église, bien sûr.
Et on n'a pas parlé encore du grand tremblement de terre de 1755, ce terrible tremblement de terre qui ne l'a heureusement pas trop endommagé, mais qui a causé tellement de dégâts.
Exactement. Alors le 1er novembre 1755, à 9h40 du matin, la terre s'est mise à trembler, et à trois reprises d'ailleurs, les secousses ont déclenché un incendie et un tsunami. Les bâtiments de la ville se sont écroulés comme un jeu de dominos. Les palais, bibliothèques, églises, comme toute la ville d'ailleurs, ont été rayés de la carte.
Et même Voltaire, je me souviens, les grands philosophes du XVIIIe siècle ont écrit tellement ils savaient traumatiser
à l'époque. Ça a marqué l'Europe.
Oui. Et quelques ruines restent encore présentes de cette tragédie qui a détruit Lisbonne. Et quoiqu'elle n'ait jamais retrouvé son statut et sa brillance d'antan, la capitale du Portugal est tout de même une très jolie ville.
Exactement, c'est une très très jolie ville. Et pour reprendre un peu ce tremblement de terre qui a fait beaucoup de dégâts dans le monastère Saint-Jérôme, donc il a beaucoup souffert, mais il fut reconstruit dans un style, ce qu'on peut appeler néo-manuélin.
Voilà. Et dans ce quartier, on peut passer beaucoup de temps car dans un rayon de quelques centaines de mètres, il y a de nombreux monuments vraiment dits, on peut dire incontournables, à découvrir.
Alors, ce quartier, c'est Belém, l'ancienne petite ville proche de Lisbonne qui, au cours de siècles passés, a été rattachée à la capitale. Ici, la brise de l'Atlantique tout proche et de grandioses monuments rappellent l'époque extraordinaire où le Portugal possédait des colonies à travers le monde entier.
Un immense empire.
Tout à fait. Pour en rêver, rien de mieux que de monter en haut de la tour de Belém.
Qu'on appelle aussi tour Saint-Vincent, car à l'origine, la tour a reçu le nom du saint patron de la ville.
Alors, construite au bord du Tage, en 1515, dans le style manuélin, cette tour est inscrite aussi sur la liste du patrimoine de l'humanité et compte parmi les plus beaux monuments de Lisbonne. Nulle part l'appel du large n'est plus puissant que dans cette forteresse gris-perle.
Bravo, c'est tout à fait vrai.
C'est une ville qui rend poète les gens.
Oui, oui. Puis elle est face à la mer, ça donne envie de partir vers l'océan. Et pourquoi la construction de cette tour, en fait? Dans quel but?
Alors, elle était conçue pour défendre le port de Lisbonne et se trouvait à l'origine, imaginée, au milieu du Tage, avant que la rive droite du fleuve ne s'assèche totalement suite au séisme de 1755. La tour est accessible par une passerelle et un étroit escalier en colimaçon mène le visiteur en haut de la tour, où un balcon offre une belle vue sur Belém et le fleuve et rappelle l'âge d'or des grandes découvertes.
Et justement, à côté, on trouve l'impressionnant monument des découvertes.
Alors, inauguré en 1960, commémorant le 500e anniversaire de la mort du roi Henri le Navigateur.
Et c'est un superbe édifice monumental en calcaire et qui a la forme d'une caravelle.
Oui, et Henri le Navigateur se tient à la proue, en compagnie des deux côtés des grands explorateurs, comme bien sûr Vasco de Gama, Magellan et les autres. Alors pour y accéder, vous trouverez sur l'esplanade que vous allez traverser, vous allez découvrir au sol des colonies portugaises à travers le monde. C'est impressionnant.
On s'aperçoit
qu'on marche sur le monde entier.
Oui, voilà, exactement.
Et on découvre que là aussi, voilà, c'est vraiment super. Voilà. Hein.
Et magnifique, magnifique. Mais après ce monument, nous allons changer de siècle et voir le musée Berardo. Mm-hmm. Ce musée créé et financé par le collectionneur milliardaire du même nom et qui est le plus grand collectionneur du Portugal.
Alors ce musée de l'art moderne n'a rien à envier au Tate Modern de Londres. On y admire des œuvres de Picasso, du Buffet, Andy Warhol, Klein, Miro, etc. Et si vous aimez l'art moderne, il faut y aller.
Alors, Elisabeth, après toutes ces visites, si nous allions déguster un délicieux en français, puits d'amour, dans peut-être la plus ancienne pâtisserie de Lisbonne et de Belém, bien sûr.
Alors voilà, Puy d'Amont, c'est comme ça qu'on l'a surnommé les Français, mais en fait, ce n'est pas la traduction exacte. Alors, c'est une bonne idée, Christine, et pour les avoir goûtés, et je crois toi aussi,
oui,
je peux vous assurer que le pastéis de nata de Belém, voilà, est certainement la plus délicieuse pâtisserie portugaise. Et quant à la plus ancienne pâtisserie de Lisbonne, elle est tout simplement ravissante, décorée avec des... Ajoulejus, et admirez mon accent,
oui.
Et les pastéis qui embaument merveilleusement l'air de cet établissement ouvert depuis 1837. Alors, tandis que nous dégusterons en imaginant, c'est ça, un puits d'amour, écoutons un peu de musique, écoutons Amália Rodrigues chanter « April au Portugal ».
Lasciatemi cantare di quella notte in Portugal. L'oceano che appare nel palpito lunare, così divinamente bello. Il vento da lontano recava piano piano un eco dolce da Coimbra. Un lavoro mi baciò, un sogno incominciò, divina realtà diventò. Coimbra in Portugal, un delizioso mal che l'anima sognante viene a carezzare. Coimbra in Portugal, qualcosa di fatale che avvince il cuore eternamente. Coimbra in Portugal, qualcosa di fatale che avvince il cuore eternamente.
Tout à fait dans l'ambiance.
Alors, on est dans l'ambiance et je pense que pendant que nous dégustions ces puits d'amour en imaginant tout ça, j'espère que tu as apprécié, Christine.
Délicieux, vraiment.
Alors, voilà, ce gâteau qui n'a pas été inventé par des religieuses, comme je le croyais, mais par des moines du monastère Saint-Jérôme, qui, pour survivre, après avoir été chassés du monastère vers 1820, ont créé ces petits flans pour les vendre. Et c'est ainsi que le pastéis de Belém était né. Sa recette reste, hélas, toujours secrète.
Quel dommage. Alors, après cette petite pause gourmande, je vous propose la visite du Musée national des carrosses, pas très loin de cette pâtisserie.
Alors, le musée est installé dans les anciennes écuries royales. Les murs de ces salles sont couverts de moulures et qui abritent des carrosses dorées du XVIIe au XIXe siècle, tous chargés d'histoire, comme par exemple le carrosse des océans, rouge et or, du pape Clément XI.
Encore à voir peut-être à Belém, avant d'aller découvrir le reste de la ville, je veux parler du musée de la marine.
Alors c'est une sorte de vitrine de l'aventure maritime et découverte du Portugal, avec quelques véritables trésors comme l'hôtel portatif en bois précieux de Vasco da Gama ou des globes magnifiques du XVIIe siècle, sans l'Australie.
Qui n'avait pas été découverte.
Et là, quittons le quartier de Belém.
Et allons vers le centre. Prenons l'Elevador de Santa Justa pour profiter d'une vue panoramique sur la ville.
C'est ça. Alors, l'Elevador est en fait un ascenseur en fer forgé, construit par Raoul Meynier du Ponsard, un élève de Gustave Eiffel. Cet Elevador vous amènera au-dessus des toits de la ville et vous offrira une bien jolie vue. Et juste en sortant de l'ascenseur, un étrange vestige vous attend. C'est l'église Saint-Dominique, en assez piteux état. D'abord, victime du grand séisme de 1755, puis incendiée en 1959, enfin ce qui en restait. Et c'est miraculeux que cette église soit toujours debout. Enfin, il ne reste plus grand-chose. Mais des bougies éclairent ses piliers et leur délicate sculpture, le tout est plongé dans la pénombre. C'est assez fascinant. Oui.
Et de là, descendons maintenant vers la place du commerce où la vie bat son plein. C'est le cœur spirituel de Lisbonne, où se croise toute la foule à chaque moment de la journée. Et c'est la place la plus imposante de la ville.
Effectivement, et c'est une place splendide. Elle descend vers le Tage. C'est un lieu de rendez-vous de tout le monde, de la jeunesse et voilà, tout Lisbonne. Et en observant l'autre rive, une vue dégagée s'offre à nous vers le Cristo Rey. C'est une statue haute de 110 mètres.
Voilà, le Cristo Rey, c'est le Christ roi. C'est une réplique du Christ rédempteur de Rio de Janeiro avec ses bras grands ouverts. Et le Cristo Rey est visible depuis presque tous les côtés de la capitale portugaise. La statue est vraiment très belle.
Alors, elle a été érigée en 1959 pour remercier Dieu d'avoir épargné au Portugal les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. En haut de la statue, depuis un belvédère, où l'on peut arriver par un ascenseur, une vue plongeante attend le visiteur sur Lisbonne.
Ensuite, en tournant le dos au Christ, au Rey et au Tage, dirigeons-nous vers la place du commerce et ses magnifiques arcades du XVIIIe siècle.
Et vers son Arc de Triomphe, qui a conservé son statut de port d'entrée de la cité depuis l'époque où tous ceux qui débarquaient des bateaux arrivaient là.
Au centre de la place, la statue du roi Joseph Ier rappelle que le palais royal s'y dressait avant le tremblement de terre.
Eh oui. Alors cet Arc de Triomphe, qui sépare la place d'une belle et longue promenade, a été élevé après le tremblement de terre. Il est un symbole qui veut prouver que pas même un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter ne peut ébranler durablement Lisbonne.
Belle leçon.
Exactement.
Et ce quartier, c'est le cœur de la capitale portugaise. Il a été donc presque entièrement reconstruit et avec faste après 1755. Et on y trouve toutes les spécialités portugaises, des parfums de lavande, géranium, rose, citron, au cours de la promenade.
Alors que l'on peut commencer après avoir passé sous l'Arc de Triomphe. On y achète en plus des produits locaux, beaucoup d'autres choses typiques, où on peut aller manger des spécialités ou aller voir un spectacle au Théâtre National. Et surtout, aller goûter le gin ginia, avant ou après le spectacle, ou à n'importe quel moment de la journée.
Alors, le gin ginia, je suppose que ce n'est pas du gin, non,
non.
C'est autre chose, une boisson quand même.
L'angocha.
Oui.
Alors, c'est une liqueur de cerise qui est servie avec ou sans cerise, il faut le préciser. Et c'est une boisson inventée par un moine goulu prénommé Espinheira au 19e siècle que l'on trouve dans n'importe quel débit de boisson.
D'accord, Jindinha. Et donc, c'est un quartier aussi où beaucoup d'artisans exerçaient leur métier dans le temps.
Oui, effectivement. Et de nombreuses rues ont pour nom qui rappellent cette époque, comme par exemple la rue des Cordeliers, de Couteliers, rue des Orfèvres, celle des Celliers ou même rue des Morutier.
Où on achetait la morue oui, ou le bacalao,
c'est tout
pourquoi
à fait.
Pas. Mais maintenant, Elisabeth, si nous allions prendre le légendaire tramway numéro 28, d'autant plus sympathique pour nous qu'il porte le numéro de notre département.
Oui, tout à fait, le numéro 28 donc. Et ce tramway fait partie des attractions touristiques phares à Lisbonne qui offrent des montées extraordinairement raides et de panoramas époustouflants. Avec sa couleur jaune d'or, son intérieur en bois poli, ce délicieux véhicule donne l'impression de voyager dans un engin de collection tout grincement.
Exactement. Oui. Alors, peut-être un arrêt sur cette ligne du tramway numéro 28, au pied de la cathédrale C. Oui, c'est son nom. C. S-E. C'est obligatoire, car c'est un monument de Lisbonne, peut-être un des plus emblématiques.
Alors, cette cathédrale, bâtie à la place d'une mosquée, juste après la reconquête de la ville en 1550 par les chrétiens, a une allure de forteresse. On la perçait, car à sa construction, elle était le siège de l'évêché.
S-E. Ah, d'accord.
Alors, abîmée lors du séisme, la cathédrale de style roman a été bien restaurée et le cloître attenant, construit plus tard de style gothique, mérite aussi une visite approfondie.
Et puis au Portugal, tout comme en Espagne, mais peut-être encore plus au Portugal, les carreaux de faïence peints font partie du décor de la vie. Alors, allons donc voir un musée qui leur est spécialement consacré.
Alors, il faut donc visiter le Museu Nacional de Azulejo.
Oh.
Et il se situe, je me suis exercée, hein.
Oui.
Il se situe dans le couvent de Madre de Deus, construit en 1509, en style manuélin bien sûr. Alors on y découvre l'histoire vieille de 500 ans de cet art portugais en visitant les chapelles dont les murs sont couverts de scènes religieuses saisissantes de vérité, des couleurs et des couloirs tapissés d'images de chasse et au deuxième étage, du musée, vous jouirez d'une spectaculaire vue sur Lisbonne et ses sept collines, ainsi que sur le Tage. Alors, non par la fenêtre, mais en observant et en admirant des carreaux de faïence bleus et blancs formant une image réalisée au XVIIIe siècle. Alors, sans oublier le magnifique retable Notre-Dame de la Vie, créé à la fin du XVIe siècle, de 1498 carreaux, ce qui en fait l'un des plus anciens chefs-d'œuvre d'Azulejos du Portugal, vous avez remarqué, 1498. Peu de temps après la découverte de l'Amérique.
Oui, 6 ans.
Voilà, 6 carreaux en tout.
J'y pensais. Oui, absolument superbe. Et l'église du musée aussi est merveilleusement belle. Les ors du baroque, les ors, s'associent avec les carreaux de faïence hollandais de la fin du XVIIIe siècle, dans une harmonie magnifique.
Alors, dans les faubourgs de Lisbonne, l'ancien pavillon de chasse du marquis de la Fronteira se visite aussi. C'est un fascinant palais du XVIIe siècle, orné d'azulejos et de couleurs vives.
Comme par exemple dans la salle des batailles. Et puis, n'oublions pas de faire dans ce pavillon de chasse, une belle promenade dans les superbes jardins à la française.
Et puisque nous parlons de ces merveilleux carreaux de faïence, je vous suggère de sortir de Lisbonne, aller à Sintra ou au Palais Royal, vous verrez d'extraordinaires salles décorées de ces carreaux de faïence exceptionnels. Tandis que vous en rêvez, j'espère que vous allez en rêver, nous vous proposons une nouvelle pause musicale en écoutant Belinda Luz.
Lindos e vacas nos campos e também pássaros no meio do campo lixo, montes de lixo. Vacas comendo nos campos, erva tão suja, miúdos buscando no lixo alguma comida. Mulheres deitadas debaixo, árvores em flores, sorrindo aos carros que passam na estrada número 4. E atrás da janela climatizada, deseja ser e vaca e campo e lixo. Deseja ser vaca, campo e lixo, árvore, estrada, pássaro, sorriso, comida. Sou mulher, nada mais sou, sou. Sorrindo no carro que passa na estrada. Número 4. Podia ser Índia, África ou Bangladesh. Todos na rua sozinhos aqui também.
Vous écoutez toujours Radio Grand Ciel, au micro Elisabeth Couget et en compagnie de Christina Fauta, nous vous présentons Lisbonne aujourd'hui dans notre émission Capitale. Alors Lisbonne n'est pas une très grande ville et pourtant nous ne pourrions pas parler de tout durant cette demi-heure dont nous disposons.
Et je pense d'ailleurs que tout ce que nous en avons déjà dit vous donnera vraiment envie de la découvrir ou de la redécouvrir.
Alors c'est un peu mon cas et je crois le tien aussi, Christine. En préparant cette émission, l'envie d'y retourner est devenue très forte. Alors je crois que je vais envisager un voyage à Lisbonne bientôt. Alors donc continuons dans la troisième partie de notre émission, la visite de Lisbonne. et allons dans le quartier Alfama, certainement le plus pittoresque de la ville.
En tout cas, le plus typique, le plus portugais.
Alors, on va commencer par le point culminant de l'Alfama et visitons la forteresse Saint-Georges qui couronne l'une des sept collines et de là-haut, la forteresse a vu Lisbonne dans les heures joyeuses et les plus tragiques de son histoire. Elle a été construite par les morts au XIe siècle.
Et depuis les remparts, du haut des remparts et des jardins, une vue magnifique s'offre à nous sur Lisbonne.
Alors, 11 tours s'élèvent et constituent le rempart, dont la tour dite Ulysse est la plus intéressante, avec son périscope à l'intérieur qui permet de voir Lisbonne en 360 degrés. Après la visite de la forteresse, allez vous perdre dans les ruelles qui s'entrelacent autour des murailles. Cherchez en particulier la rue Santa Cruz do Castelo.
Bordée de jolies maisons de couleur pastel et de tout petits bars et d'épiceries.
Qui vous révélera l'âme de la vieille citadelle maure, jadis résidence de l'élite.
Et depuis la porte des maures, vous aurez une vraie vue de carte postale sur le quartier d'Alfama, où il faudra vraiment aller se promener au gré de votre fantaisie.
Alors en se promenant, vous découvrirez d'autres Ajoelhos, des marchés aux puces, d'autres vues plongeantes sur la ville et sur les deux ponts célèbres, le Vasco da Gama et celui du 25 avril, élevé en souvenir
de la révolution des œillets.
Exactement, et qui enjambe le Tage. Ensuite, par exemple, prenez un pont sur une des terrasses et imprégnez-vous de l'ambiance qui vous entoure. Prenez votre temps.
Et allez écouter le fado pour saisir l'âme du Portugal. Et ne cherchez pas à savoir ce qu'est exactement le fado.
Alors, chaque personne en donnera une autre explication. En fait, c'est une complainte mélancolique chargée d'émotions. Plus nous en écoutons, plus sa diversité devient évidente. Un fadiste, donc un chanteur de fado, disait « Le fado, c'est la vie, le bonheur, la tristesse, la poésie, l'histoire, etc. etc. »
Oui, on dit que c'est à la fois le bonheur et le sentiment que le bonheur, on peut le perdre. Donc on éprouve déjà la nostalgie
de l'avoir, perdu.
De l'avoir perdu au moment présent.
Alors,
d'où vient le fado?
Et ses racines s'enfoncent dans les ruelles du quartier d'Alfama et ce sont des chants de marins, des ballades poétiques mauresques, les blues des esclaves brésiliens et tout ça mélangé donne le fado. Alors en promenant dans ce quartier, vous entendrez certainement, ou en déjeunant ou en dînant, de la morue, pourquoi pas.
Avec des gin-gin, il y a.
Tout à fait. Sous des tonnelles d'une petite gargote. Alors voilà, je crois que nous vous avons déjà
beaucoup parlé de Lisbonne, oui. Que nous vous souhaitons vraiment de découvrir un de ces jours, peut-être
durant
pendant
les
vos vacances.
Oui, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir,
Christine.
Eu sei bem que tu desejas ser como as outras artes. Não.